podcast.com. Essaye ça. Le crachoir numéro 95, celui du référendum de 95. Il s'en est passé pas mal des affaires avec ce référendum-là. Ça n'a pas été tout le temps très propre. Et on va éclaircir ça comme ça avec beaucoup, beaucoup de recul avec Martin Godette et Jérémy Rivard qui est avec nous, notre féru d'histoire. Salut les boys.
Salut.
Salut mon Frank.
Ça se demande-tu, Drette, en partant aux choses, si vous aviez voté puis quel côté vous aviez choisi à cette époque-là?
Ben oui, moi, je vais y aller. Ça se demande certains, puis j'ai voté oui.
Moi, j'ai pas voté. Ben, regarde, si on y va avec la logique des épisodes, j'avais 6 ans, fait que j'ai pas voté.
OK, ouais.
Mais l'adolescent que j'ai été dans les années 2000, qui a beaucoup lu sur le sujet, était un fier patriote indépendantiste, puis j'aurais voté oui, mais ça l'a changé avec le temps, hein, fait que... On va se demander d'en parler aujourd'hui.
Moi, j'avais pas l'âge de voter, j'avais 15 ans, mais j'ai beaucoup milité. Mon père était un militant de première heure, syndicaliste et militant du oui. Fait que j'y ai goûté, puis pas à peu près, à ce référendum-là, même si, bon, à 15 ans, on n'a pas plus que la compréhension et l'expérience de quelqu'un de 15 ans. Souvent, on est de l'avis de nos parents ou des personnes qui nous influencent, mais je pense que, eût été plus vieux, plus mature, j'aurais voté pour le oui. Je suis pas sûr que je voterais pour le oui aujourd'hui, mais à cette époque-là, certainement, avec Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, même Mario Dumont était dans le cas du oui. Ça, c'est assez spécial.
C'est vrai. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, souviens-toi aussi que, tu sais, dans la foulée de tout ça, il y avait même eu, tu sais, avec tous les échecs du Lac Mead, des accords de Charlottetown et tout ça, même Robert Bourassa tenait des propos nationalistes, dans l'embryon de ce qu'aura été le référendum de 95, évidemment, là.
Oui, mais dans le cadre de son parti, mettons, là.
Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, s'il y a même personne de qui on aurait pu ne pas penser qu'il tiendrait des propos de ce genre-là, ben fut un temps, en tout cas, à tout le moins, c'était Robert Bourassa, donc... Mais là, Jay, donne-nous donc, fais-nous donc un brin de moi, j'ai ramassé, en tout cas, je veux pas mettre Jay sur le spot, parce que vous savez, mesdames et messieurs, Jay, c'est un parent, puis Jay, c'est un bon parent. Alors, tu sais, il me faisait la confidence hors micro que dernièrement, c'était plus challengeant d'être un bon parent parce que son fils est sur le party assez tôt le matin.
Fédéraliste!
Ah non, mais de ce temps-ci, juste une petite parenthèse, comme je disais à Martin tantôt, c'est que je dors plus. On se lève à 4 heures pour ma blonde. Je pars à 7 heures le matin pour aller travailler à 83 km de chez nous. Fait que admettons qu'en ce moment, il est 10 heures quand on enregistre, fait que je suis vraiment sur le bord de me coucher. Mais oui, Martin, tu as bien résumé. Tout, dans le fond, il y a trois choses. L'accord du Lac Meech, comme tu as dit, l'échec de l'accord du Lac Meech, d'un côté comme de l'autre, je pense du côté québécois comme du côté canadien, ça a été vraiment important pour la hausse du oui. Pour 95 qui s'en venait. Puis Robert Bourassa, tu l'as tellement bien dit, Robert Bourassa qui a dit le Québec est libre et est capable d'assumer son propre destin. tu sais, imagine, là, c'est le Parti libéral qui dit ça, le Parti fédéraliste. Puis je pense qu'il n'y a pas, qu'il pas longtemps après. Hein, ouais, c'est ça. Bourassa, bon, le mangeur de hot dog. Ouais. Mais je pense qu'il a quitté pas longtemps après, hein, si je me souviens bien, pour être remplacé pour.
Non, c'est pas très longtemps. Puis c'est sûr que là, je vous dis tout ça de mémoire. Là, j'ai rien d'ouvert en avant de moi là, à cet effet-là. Mais ça a été, tu sais, je veux dire, c'est probablement ce qu'on pourrait considérer comme le legacy de Robert Bourassa avant de quitter. Ça a été de faire un peu le constat de ce qu'il a défendu si longtemps. Marchait pas, ou en tout cas, devait être questionné à tout le moins.
Mais c'était un patriote québécois, je veux dire, Bourassa, même s'il était dans un parti fédéraliste, il y avait un attachement profond, je pense, pour le Québec. Puis je pense je pense pas qu'il l'ait dit, mais je pense qu'il a toujours vu le Québec comme une nation à part entière, Robert Bourassa, même s'il était libéral.
Mais tu sais, Robert Bourassa...
Il a déchiré un peu tout le temps. Il me semble qu'il aurait pu être dans le Parti québécois, puis ça aurait pas... il aurait pu changer de parti, puis ça aurait pas été si dur que ça. Il était pas si loin que ça, je pense, d'être souverainiste. Je pense que ça y a probablement tenté.
Ben, moi, je pense que les gouvernements Bourassa, que ce soit au début des années 70 ou bien dans les années 80-90, ça a été le Parti libéral... Les moutures du Parti libéral les plus au centre qui a jamais existé.
Avec Robert Bourassa aussi. Hein? Robert Bourassa, c'était l'homme des demi-mesures. Puis Roque Belles Oreilles en avait fait une excellente parodie dans leur un sketch. C'était sur la crise d'Oka. Puis à toutes les fois que quelqu'un voulait une solution, ben, il voulait l'appliquer, mais à moitié. Puis tu sais, c'était pas sur la crise d'Oka, que je dis là, sur le Quatrième Reich. Les Canadiens anglais, ils étaient comparés aux Juifs pendant l'Holocauste. Puis là, t'avais le général québécois puis qui voulait les exterminer. Puis le Bourassa qui disait, on pourrait pas les exterminer juste à moitié. C'était un peu l'homme des
Mais il y a une autre affaire aussi qui faisait, c'est un grand paradoxe, c'est que tu sais, historiquement, Trudeau et Bourassa faisaient partie du même parti, mais un c'était national puis l'autre c'était provincial. Mais le torchon a toujours brûlé entre ces deux personnes-là. Puis fais juste regarder leur tempérament, leur comportement, leur style. Tu sais, Pierre-Éliott Trudeau c'était la rock star, Robert Bourassa c'était le look de comptable. Tu sais, la personne.
Je pense qu'il méprisait. Je pense que
c'était mangeur de hot dog, ça vient de là.
Oui, c'est ça. Puis je pense que Trudeau voyait Bourassa comme un faible, quelqu'un qui courbait les chines facilement. Tu sais, je pense qu'il respectait pas il respectait pas l'homme en plus de ce qu'il disait, tu sais, ou ses opinions.
Mais tu sais, historiquement, vas-y, Jay.
Bon. Ben moi, je dirais que dans le temps de Trudeau, papa, et puis de Bourassa, c'est que les deux, tu sais, il y avait tellement l'image de leur, tu sais, du pays ou bien de la province qui représentait. Ben, tu sais, l'image du Canada qui est au-dessus du Québec, qui veut mettre à pied le Québec, tu sais, les mettre au pas. C'était.
Le papa Canada, c'était, là.
Exactement. Ça, c'était Pierre-Éliott Trudeau. Tu sais, vraiment, là, c'est ça, l'attitude paternaliste contre le petit Québec
qui
va suivre, etc.
Puis il avait pas peur d'user de son autorité paternelle. Hein, la loi des mesures de guerre en a fait foi.
Mais en même temps, faut dire que la loi des mesures de guerre, ça a été Bourassa, parce que faut pas oublier qu'en 70, le Bourassa, c'était lui le premier ministre, puis il avait 36 ans, là, c'est un jeune premier ministre, puis d'arriver avec une situation aussi drastique que la crise d'octobre, c'est que il a demandé au fédéral, aidez-nous parce que là, moi, je vois plus le bout. OK, ben parfait, gars, on va envoyer l'armée. Fait que si Bourassa aurait mis ses culottes, tu sais, comme tu disais, Frank, tantôt, les demi-mesures de Bourassa, c'est ça, c'était ça, Bourassa, au début.
Ah ouais, c'était un fait aux yeux de Trudeau, puis Trudeau, il est arrivé, bon, regarde, je m'en viens avec mon armée, là.
C'est ça, puis moi, je pense que, tu sais, dans la foulée du départ de Bourassa, dans la foulée de Meade, Charlottetown, 95, le référendum, je pense aussi que son testament politique, ça aura probablement été ce fameux discours-là, au cours duquel, tu sais, il avait justement mentionné le fait que on était ben, à toute fin pratique, peut-être un presque maître chez nous, mais tu sais, 25 ans ou 30 ans plus tard, là, tu sais, c'est un peu ça. Mais les gars, je vous garoche des chiffres. Le taux de participation record de l'histoire des élections au Québec, 93,52%. Mettons que t'as pas ça dans les commissions scolaires, mettons.
T'as ça en Arabie Saoudite, quand c'est pas vrai.
Ouais, c'est ça. Il y a eu, puis là, ben, une affaire, là, je veux pas garrocher toutes sortes de chiffres pour rien, là, fait que je veux me rendre à la bonne place, mais, tu sais, l'écart entre la victoire et la défaite, c'est infime, là. C'est 50 quelques mille votes.
50 000 votes.
OK? 56, je crois. Il y a eu 86 501 votes nuls. Tu sais qu'on s'entend-tu que ça aurait pu... Hein? Bon, c'est sûr que là, les 80... Ben, les 86 501, tu sais, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu 56 000 manquants, tu sais, qui auraient fait pencher ça du côté de la balance, d'un côté ou l'autre, plutôt, de la balance.
Non, mais le résultat, c'était uni, il aurait pu battre l'argent et les votes ethniques.
Ouais, ben, c'est ça, on va revenir là-dessus, mais le oui, 49,42% et le non, 50,58%. Je sais pas vous autres, là. Mais moi, je maintiens encore ça. Je suis pas historien, je suis pas aussi féru d'histoire que Jay, là. Dans l'histoire de l'humanité, tu sais, un vote aussi serré et aussi important, tu sais, au sujet de la naissance ou non d'une nation, c'est jamais arrivé, là. Jamais.
Non, je pense pas.
Ben, moi je pense qu'on on peut comparer le référendum de 95, tu sais, mettons, là, en frais de nombre de votes, si minime soit-il, là. Avec peut-être l'élection de John F. Kennedy.
Ouais, quand il a battu Nixon, ça ressemblait à 93 000 ou quelque chose comme ça. C'était débile. Oui, c'est pire. Ah, oui. Ça, c'est pire, en fait. Là.
C'est bien pire.
À l'échelle américaine, c'est 100 fois pire, oui.
La seule différence que je fais, c'est un maudit bon point que tu amènes, Jay. La seule différence que je fais, c'est que oui, on pourrait extrapoler puis dire que ça avait une incidence énorme sur l'avenir d'une nation. Mais là, on parle d'en devenir une, là. Puis pas aussi, de qui va la runner, là, tu sais, c'est capoté. Là.
Moi, je me demande si on inverse les chiffres, si le camp du oui avait eu 50 quelques pourcents, là, est-ce qu'il nous aurait laissé partir?
Jamais.
Jamais. C'est ça que je pense.
Jamais.
Moi, je pense qu'on va dire, ah ben là, c'est... Pourtant, la démocratie, c'est majorité plus un, là. Mais j'ai l'impression que si ça s'était déroulé comme ça, le camp fédéral n'aurait pas accepté la défaite.
Jamais.
Il n'aurait pas concédé la victoire au camp souverainiste. Il y aurait eu 1000 recomptages. Il y aurait toutes sortes de
recours. Ah non, deux, trois ans plus tard, ça aurait été encore devant la Cour suprême. Puis il y aurait il y aurait sorti tous les canons judiciaires possibles. Puis
deux, trois ans, tu mets ça quand même court. J'ai l'impression que ça
aurait. Ben, c'est ça. Mais, en fait, j'ai oublié quelque chose que je voulais dire aussi parce que je trouve ça bien important dans la discussion qu'on a. C'est, faut se rappeler quelle était la question aux urnes, là. C'était, acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 95. Je sais pas si vous vous rappelez, on va en parler plus tard, là.
On va en parler.
Ben, c'est ça, on va en parler plus tard parce que. Ben, je voulez-vous être un pays, oui ou non, ça aurait fait la job, mais anyway, je comprends, là, parce qu'il fallait, il était obligé, en vertu de la loi électorale.
Mesure légale, il fallait qu'il se protège avec une question claire puis précise.
Et
sauf
voilà.
Elle est tellement précise que pour des gens qui sont pas, mettons, des gens qui suivent ni la politique, ni l'actualité, ben, ça devient juste, ça porte à confusion, puis la question, aussi précise soit-elle, n'est plus claire pour ces gens-là. Là.
Voilà.
Puis, mais faut dire quand même que la question de 95 est bien moins pire que celle de 80, là.
Ah, oh, ben non, là, t'as 100% raison.
De la trouver.
Oui, vas-y, Frank, parce que, m'en a parlé pendant ce temps-là, la question de 1980, là, sérieusement, c'est un paragraphe de quasiment 110 mots, là. Puis, c'est tellement général que tu comprends même pas la question. Tandis que la question de 95, comme tu dis, acceptez-vous que le Québec devienne souverain, tu sais, on s'entend que c'est clair, après avoir formellement offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique, et je suis vraiment brûlé. Mais tu sais, c'est plus clair que la question de Frank. Et,
je l'ai, celle de 80. Écoute bien ça. Ça va t'endormir, vas-y. Jay, je m'excuse, OK?
Ça va.
Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettra au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada? Si moi, je répondrais à ça. Faut-tu que je dise oui ou non?
Si tu mets pas d'un point d'interrogation à la fin, là, c'est pas une question, c'est un programme électoral. Là.
Mais en fait, les gars, c'est que à cette époque-là, puis ça, j'entends même, j'étais pas vieux, mais j'ai revu des trucs aussi, mais j'entends encore René Lévesque dire ça. C'était la souveraineté association. C'était, on peut-tu te louer le sous-sol?
Puis on regarde l'argent canadien, puis
c'est ça. Exact. Mais moi, faut que je vous dise, j'avais 22 ans quand le référendum de 95 est arrivé, OK? J'ai voté, puis Jay, je vais t'épargner je vais le raconter plus tard, ma soirée de référendum, là. Mais moi, je me souviens très bien, tu sais, on regardait à TV, puis tout ça, que même avant même le référendum, toute la question de quelle serait la calisse de questions, ça arrêtait plus, là.
Ben oui, ils ont été traumatisés par celle de 80.
Ben oui, pis c'était parfait. C'est, pour le camp du non, moi, je pense que c'était parfait. Parce que là, on ne se questionnait plus sur le fond, on se questionnait sur la forme. Tu sais, on s'occupait pas du contenu de l'enveloppe, on s'occupait de l'enveloppe. Eux autres, c'était parfait pour eux autres de mêler le monde. Puis là, ils n'arrêtaient pas d'utiliser garrocher des termes, à coucher dehors. Puis écoute, c'était n'importe quoi. Là. Moi, je me rappelle de cette soirée-là. Vous pouvez pas vous imaginer. Je me rappelle que j'avais sur le dos. Je me rappelle j'étais qui. Je me rappelle j'étais où. Écoute, en tout cas, je veux pas brûler le punch. Là, rester avec nous autres, mais... Non, c'est pas. Tu sais, pour vous autres, c'est un souvenir. Moi, là, l'équivalent des souvenirs de Jay, mettons, Jay, puis là, ça me rajeunira pas. Mais moi, je me rappelle de 80, moi, je m'en souviens, là. Je me rappelle que, ben oui, je me rappelle que j'avais des mononcles qui avaient des stickers, oui, sur leur char, puis que mes autres mononcles ne parlaient plus, là.
Ah, moi, je suis né en 80, en même temps que le Nouveau-Canada.
C'est ça. Puis même, je me rappelle au secondaire, quand il nous expliquait les contre-coups de l'accord du Lac-Mige, puis qu'est-ce qui s'était passé, puis la soirée des longs couteaux, puis toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est... Écoute, je pense qu'en conclusion de se raconter l'histoire, là, c'est que... On le sait, tu sais, je veux dire, ça se réglera jamais, mais ça va toujours être là en même temps. Elle va toujours exister, cette question-là. Puis dans le segment que je vais faire tantôt, je vais vous en donner des preuves empiriques. C'est désarmant de confusion au Québec par rapport à « on veut-tu être un pays, on veut-tu faire partie du Canada? » Je vais vous en parler tantôt.
On veut, mais on n'a pas les couilles, Martin. C'est ça.
Ben, je le sais bien, mais là, brûle pas mon segment. Brûle pas mon segment.
La souveraineté, c'est... je pense que c'est Duplessis qui avait dit ça, en tout cas dans la série qui parlait de sa vie. Il disait le pouvoir, personne ne te le cédera jamais. Il faut que tu l'arraches à celui qui l'a.
Ouais.
Puis là, il est trop tard.
Je pense que oui.
Ce que je veux ajouter, par exemple, c'est, tu sais, vous dites justement, on est un peuple. Moi, je trouve qu'on est vraiment. On est mélangé comme moi à soir, mais non, mais on est un peuple confus, tu sais, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Mettons aujourd'hui là, après 30 ans, mais pas dans 30 ans, après 25 ans le dernier référendum là, oubliez ça là, tu sais, s'il y en a un jour là, ça va être pour nous sortir du Canada, pas pour que nous autres on en sorte.
OK, moi, mais avant que tu ailles te coucher, Jay, moi j'ai une question par exemple.
Oui.
Là tu vas vraiment être drainé après là. Mais mettons qu'il y en a un demain, un référendum. Tu votes quoi?
Ben moi, je vote oui.
Ah, hein, 25 ans plus tard. Puis toi, Frank, es-tu prêt à répondre à ça? Ou?
Avec Legault, tu veux dire?
Non, laisse faire avec qui?
Ben non, mais non, je peux pas laisser faire avec qui, c'est important.
Bon, parce non,
que,
mais d'abord,
parce que s'il
non,
y en avait
Frank,
eu un avec
Frank.
Pauline Marois, ça aurait été non.
OK, mais d'abord.
Tu sais, si il y en avait eu un avec, je sais pas, Bernard Landry avant, ou un autre avec Parizeau, ça aurait été oui. Ça, bon, ça prend un leader pour partir un pays, puis je trouve que c'est de ça que le Québec manque, des vrais leaders charismatiques puis en qui on a confiance. Pas des crapules libérales comme Jean Charest qui sont faites en teflon, qui sortent de tout, mais on sait qu'ils sont croches de tous les bords. Tu sais, ça prend un... quelqu'un qui représente le Québec, quelqu'un qui nous fait pas honte, quelqu'un en qui on a confiance, puis qui est capable aussi d'enflammer la population avec son projet. Jean Charest, Caroline, juste son ton, là, hein? Alors, je suis prêt. Tu sais, c'est pas une image, tu sais. Mais puis on l'a eu combien de temps comme premier ministre, tu sais. Puis ceux qui disent, ouais, ben, en tout cas, on n'a pas les politiciens qu'on mérite. On a les politiciens qu'on mérite. Puis ils nous ressemblent. Puis ils viennent. Jean Charest, là, puis toutes les premiers ministres qui passent, là, ils viennent du Québec, là. Ils sortent d'une maison québécoise avec des parents québécois. Puis c'est le système québécois qui les a forgés. Fait que j'ai l'impression que c'est pas qu'on... je trouve qu'il nous manque des bons leaders, mais ça doit être de notre faute quelque part, parce que ceux qui ont du leadership, on a peut-être peur, on ne vote pas pour eux autres.
Ça veut dire que ta réponse, ça dépend c'est qui?
Il y a une bonne partie de mon choix qui serait influencé par, oui, qui me le propose.
Parfait. Fait que ça dépend c'est qui, puis moi, ma réponse, Jay, c'est oui. Moi, j'ai pas changé, là. Ça, c'est clair.
Moi, ce que je veux dire.
Mais j'y crois pas, là. Par exemple. Je voterais oui, mais je le sais que ça n'arrivera pas. Oh non, mais moi, je voterais oui, mais je le sais qu'on le ferait pas.
Ouais.
Mais moi, je voterais oui pareil, là.
Toi, t'es un pessimiste, mais proactif.
Ben oui, mais moi, il n'y a pas question que je me désiste de voter, puis il n'y a pas question que je vote non. Mais je le sais que ça passera pas. C'est clair.
Tu sais, je me reconnais pas dans le Québec d'aujourd'hui, mais. Tu sais, en tant que Québécois, comme en tant qu'Ontarien, en tant que quelqu'un du Nouveau-Brunswick, n'importe quoi, il n'y a aucun pays, mais on est tellement un pays, le Canada, tellement désuni, c'est pas un pays, c'est une association économique, ce pays-là. Ça a été fondé, le Canada, sur l'aspect économique, pas sur on est pareil. Tu sais, il y avait des Français, il y avait des Anglais, puis ils saillissaient bien plus que le monde, que les Français et les Anglais d'aujourd'hui, là. Mais c'était économique parce que, justement, il avait fini une espèce de traité de libre-échange avec les États-Unis. Puis là, il se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ben, gars, on va s'unir comme ça, on va faire du commerce ensemble. C'est ça, le Canada. Puis c'est encore ça, puis ça va le rester. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, t'as comme des espèces de franges qui séparent, par exemple, dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'on veut faire une espèce de pays avec la Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, puis je pense même peut-être pas Manitoba. T'as le Québec, t'as le monde des maritimes, qui ont un sentiment d'appartenance à leur coin. C'est un pays tellement grand. Tu sais, demande à quelqu'un en Russie, là. Demande à quelqu'un en Russie, mettons, à Moscou, s'il s'identifie à quelqu'un de Russie qui est à côté de la Chine, là. Pas en tout, là. C'est des pays. On est deux pays tellement grands que, tu sais, moi, je m'identifie pas au monde de Vancouver, là. Puis j'ai beau essayer, puis je suis pas capable. Fait que moi, c'est pour ça que je m'identifie au Québec, parce que je reste dedans, mais tu sais, j'en ai rien à branler, mettons, de François Legault, puis de n'importe quel chef qui est là. Mais c'est vrai que ça ferait du bien d'avoir un chef un petit peu plus charismatique qui pourrait me faire à croire qu'on pourrait être un peuple uni un jour. T'sais.
Parce qu'au-delà de la différence entre les provinces, il existe un fossé encore plus creux qui est celui entre le Québec et l'ensemble des autres provinces, le ROC, le Rest of Canada. Parce qu'on est une culture différente, on parle une langue différente. Le Canada n'est pas vraiment un pays bilingue. Là. Il y a une province bilingue. Non. Il y en a une tu sais, Nouveau-Brunswick, il y en a qui considèrent ça comme bilingue. Là. Moi, je pense qu'ils parlent ni bien français, ni bien anglais.
Mais... L'Ontario, c'est septilingue.
Mais on est une province francophone, on a notre culture à nous autres. On leur ressemble pas tant que ça. Les deux solitudes, c'est celle-là. Là. Tu sais, je veux dire, entre la Saskatchewan et le Manitoba, j'ai pas l'impression qu'il y a un fossé culturel qui les sépare. Là.
Moi, je l'ai dit souvent, Jay, je suis 100% d'accord avec toi, je le dis d'une autre façon, puis je l'ai dit souvent même dans le crachoir. Pour moi, le Canada, c'est une raison sociale, c'est pas un pays. Mm-hmm. Puis c'est une compagnie qui, présentement, marche plus. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu vends-tu ça en morceaux? Tu passes ça sur un autre nom, comme disait Daniel Lemire? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que là, même administrativement, là, ça ne fonctionne pas.
Mais Martin, tu t'en vas avec le Québec, puis tu fais un OSBL avec ça?
Encore. Ben oui, absolument. Écoute, j'aime autant. Ben oui, j'aime mieux.
Socialiste.
Moi, là, vous allez dire. Non, je ne suis pas socialiste, mais vous allez dire que c'est du mercantilisme crasse. Mais pour le niveau d'imposition qu'on a en vertu des deux paliers auprès desquels on doit cotiser, ça fonctionne pas. Bon, ça marche pas.
C'est clair.
C'est ça. Fait que là, ben, tant qu'à ça, si je pourrais me faire imposer à 45, 46, 47 travailler 110 heures pour faire virer mes affaires, ben regarde, j'aime autant le faire à un palier de gouvernement. Un, ça va être calissement moins compliqué.
Ouais, mais tu sais qu'avant, c'était de même, hein? T'envoyais tout ça au Canada, puis c'est tout.
Ah oui, mais regarde,
c'est Duplessis qui est allé chercher les impôts provinciaux, puis ça. Mais en fait, ça a grossi les pouvoirs du Québec aussi.
Le Canada, c'est une raison sociale, c'est une incorporation, et présentement, cette entreprise-là ne fonctionne pas. Point.
Moi, un projet politique que je verrais pour le Canada, c'est... En ce moment, on est une confédération, ça veut dire que tu as un gouvernement fédéral, puis tu as des gouvernements provinciaux.
Mm-hmm.
Mais tu regardes... Tu sais, je dis pas que c'est genre magique, là, mais tu sais, tu regardes l'Union européenne, là, c'est tous des peuples... C'est tous des peuples différents. C'est tous des peuples différents, mais tu sais, là, mettons, t'as la Grande-Bretagne qui veut s'en aller avec le Brexit, là.
Ouais.
Mais tu sais, ils ont la même monnaie, mais ils font leur propre loi. Puis tu sais, il y a quand même, tu sais, ça marche quand même un peu, là. Puis ils sont libres dans leur pays, là.
Ils gardent des choses en commun pour bien fonctionner, mais ouais.
C'est ça.
Ben, c'est exactement.
Il y a certainement des économies d'échelle que tu devrais faire, tu sais.
Mais l'Union européenne est une raison sociale, comme tu le décris, Martin.
Oui, c'est ça, mais c'est justement, mais tu sais, je paye pas d'impôts.
Non, c'est des pays
si souverains. Anglais. C'est ça, je paye pas d'impôts en Angleterre puis à l'Union européenne.
Ben, imagines-tu qu'on devient tous des pays souverains au Canada, la Terre-Neuve, comment est-ce qu'ils sont dans la marne?
Non, mais ça fonctionnerait pas comme ça. Jay l'a bien expliqué. Ça serait les pays. Les pays de l'Ouest, ça serait ça.
Oui.
Non, mais t'aurais les Maritimes, t'aurais le Québec, l'Ontario. Ben, ils feront bien ce qu'ils voudront. Ils ont pas trop de troubles de ce temps-là. Puis après ça, il te resterait Saskatchewan, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta. Puis écoute, je sais pas, les gars, si vous êtes déjà allés faire des petits road trips dans l'Est ou vous pétez des trips à Osoyoos ou whatever en Colombie-Britannique. Oui. Ou toi dans ton cas peut-être, mais tu sais, là, écoute, je veux pas me prétendre connaisseur du socio-culturel de l'Ouest du Canada, mais si, ça ressemble bien plus que nous autres, là. Tu sais, je veux dire, là, quelqu'un qui habite à Calgary va ressembler pas mal plus à quelqu'un qui habite à Saskatoon que quelqu'un qui habite à Saint-Anne-de-la-Pérarde.
Oui, ben parce que c'est ils partagent une même culture, puis des mêmes racines britanniques, puis des mêmes
valeurs,
puis ils ont poster de la reine dans la cuisine. Pis.
Ils ont le set de cuisine, le set de vaisselle. Avec. Mais non, c'est ça.
Le set de vaisselle, écoute,
n'oubliez pas le
Canada, Calgary 88.
mais n'oubliez pas une affaire. T'sais, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est si différent un peu partout au Canada, c'est la distance. Là.
Ben, pis la langue, j'allais t'appeler Toto, excuse-moi. J'ai trop de podcasts. Mais non, mais la langue, c'est majeur, là.
Ouais, mais la langue, mais tu sais, comme tu dis, mettons, là, quelqu'un de, comme t'as bien dit, quelqu'un de Calgary, est-ce qu'il va s'identifier à quelqu'un qui reste à Saint John, Saint John, Terre-Neuve?
Non,
c'est deux Anglais,
mais Terre-Neuvien va s'identifier à quelqu'un du Nouveau-Brunswick, par exemple.
Oui, c'est ça.
Exactement, parce qu'ils ont la même culture, c'est le même spot, ils ont vécu de la même manière parce qu'ils restent à la même place.
Moi, le l'Ouest, les prairies, puis le Québec, puis l'Est.
moi, je vais vous dire c'est quoi aussi que je t'ai écœuré là-dedans, puis Jay, tu diras ce que t'en penses, là. C'est que moi, je t'ai écœuré que le monde soit fier d'être Canadien quand ça donne. Quand ça fait
l'art.
Les Olympiques, quand il y a un drame, quand il y a, tu sais, là, puis c'est tragique, là, mais tu sais, l'accident d'autobus des petits joueurs de hockey, tu sais, tout ça. Là, on est donc Canadiens, là. Ah, puis Ryan Gosling, il est venu au Canada, pop, puis Ryan Reynolds, c'est un petit Canadien, ça.
James Carey.
Ah,
oui, Mike
ça,
Myers.
Ça, c'est pratique, là. Tu sais, l'espèce d'être Canadien par opportunisme.
Oh, ouais, quand ça nous tente.
Dégoûte, mon gars, tu peux même pas savoir, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, il y a des circonstances dans lesquelles, puis là, on parlera même pas des forces armées, là. Si on pourrait faire le show là-dessus, c'est une joke, là. OK? On s'entend, là?
Arrête, je vais embarquer sur la milice patriotrique
canadienne. Ah non, c'est... comment tu vois? Non, mais je te parle de l'armée, je te parlais des forces canadiennes. Fait que, non, c'est ça. Puis, écoute, je pense que, tu sais, on est obligé d'admettre, je pense que vous êtes d'accord, qu'il y a des circonstances qui font en sorte que c'est plus difficile de s'identifier quand tu parles pas la même langue et quand tu n'as pas la même culture que la très grande majorité de certains regroupements de provinces qui pourraient en avoir une qui se ressemble plus. Oui, tu pourrais me sortir qu'en Colombie-Britannique, il y a une forte communauté asiatique, tu pourrais me dire ça. Tu pourrais me dire aussi que dans les maritimes, ben, tu sais, ils ont leur propre dialecte dans chacune des provinces. Oui, tu pourrais me sortir ça. Sauf que regarde, il en demeure pas moins qu'au final, comme Jay l'a très bien dit, c'est un grand territoire. C'est une grande superficie. Puis la capacité d'unifier ces superficies-là en parlant pas en plus la même langue, c'est pas facile. C'est pas faisable.
Je pense que ça va être dur d'unir les Québécois parce que plus ça va, moins on dirait le patriotisme est vivant au Québec. Puis souvent, on va faire le lien entre les patriotes puis des groupes identitaires comme la Meute, puis on dirait que c'est un des tatas à cette heure qui se disent patriotes ou
ça a perdu de son lustre, le patriotisme au Québec, mettons.
Ouais, puis la population est plus désunie que jamais. Ça prendrait tout un leader pour réussir à unir ce monde-là. Peut-être que Guy Nantel, prochain chef du Parti québécois, va réussir à faire ça. Mais je donnerais un conseil, par exemple. Pour le prochain référendum, Montigny, triche donc. Triche donc, parce que de toute façon, le camp du non a triché pour le dernier référendum, puis on n'a pas annulé le résultat du référendum, on n'a pas fait un autre référendum. Il y a eu des petites conséquences, mais en gros, ça a été payant de tricher pour le camp du non pour le référendum. Hein. Il y a eu des milliers de dollars, des milliers, tu sais, qui ont été dépensés, mais qui n'étaient pas déclarés, qui étaient cachés, parce que il y a un montant prédéterminé par le directeur des élections qu'on peut dépenser pour une campagne électorale. Puis le camp du non, c'est avait utilisé toutes sortes de stratagèmes pour cacher des dépenses, pour faire plus de publicité, pour avoir plus de visibilité que l'option du oui. On va se rappeler de l'organisateur libéral Gilles Cloutier, là, qui d'ailleurs il a admis devant la commission Charbonneau des années plus tard qui avait financé légalement la campagne du non, là. J'ai ça ici dans les Laurentides puis la Naudière. À ce moment-là, le oui puis le non étaient au coude à coude, puis ils ont toujours été, évidemment, jusqu'à la fin, jusqu'au vote. Mais il a pris de l'argent de plus pour louer des panneaux publicitaires, puis faire de la publicité pro-fédérale, puis il a pas déclaré ça, il a caché ça. Ça a sorti beaucoup plus tard, puis les conséquences... Puis il y en a eu d'autres scandales aussi qui ont sorti, là, tu sais, d'argent qui apparaît comme par magie pour acheter de la pub qui disparaît.
Frank, les deux camps avaient 5 millions de budget chacun. Puis dans l'analyse qui a été faite par la Direction générale des élections du Québec, tu sais, ça a été prouvé que les deux camps avaient busté puis qu'il y avait eu des dépenses illégales.
Le fédéral avait...
Non, pas à même hauteur. De toute façon, je pense que c'est un peu le sujet de ton segment, là, tu sais, l'espèce de contre-choc de tout ce qui a émané de toutes ces procédures un peu douteuses-là.
Ce que je voulais dire, là, c'est... Tu sais, je reviens avec le fait que le Canada n'est pas vraiment un pays, mais aux dernières élections, j'ai vraiment eu la confirmation de, puis c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs au pays qui l'ont marqué. Je suis vraiment pas un conservateur, mais de voir que toute la map était bleue, puis que le sud de l'Ontario était rouge, et que c'est à cause de ça qu'il y a eu un gouvernement libéral minoritaire. Moi, ça m'a vraiment confirmé que, regarde, ça marche plus. C'est vraiment mort comme mode de scrutin, surtout.
OK, hey, on va finir ça en écoutant quelque chose qu'on n'a pas pu entendre en 95, mais qu'on va écouter aujourd'hui, c'est-à-dire le discours de la victoire du oui. Si le oui avait gagné, le discours de victoire de Lucien Bouchard va précéder en berne des Cowboys fringants. On se reparle tout de suite après. C'est le crachoir numéro 95, celui du référendum de 95.
Une voix nouvelle s'élève ce soir, celle du peuple du Québec. Il a fallu du temps, il a fallu des hommes et des femmes de labeur et de courage, que de fleuves et de rivières remontées, de terres explorées, de forêts défrichées, de sols labourés, d'usines érigées, de villes et villages construits, de coups de cœur, d'actes de raison, que de sacrifices consentis et d'inquiétudes surmontées, que de constance dans ce parcours obstiné. Il sera dit des Québécoises et des Québécois qui ont participé au scrutin d'aujourd'hui qu'ils ont franchi les derniers pas de cet itinéraire. Ce sera l'honneur de cette génération d'avoir donné tout son sens à cette longue démarche, nourrie de tant d'efforts obscurs, en la faisant émerger au plein jour de la maturité politique. Je vous propose de dédier cette grande victoire du Québec à René Lévesque. Plus que tout autre, il méritait d'éprouver ce soir la joie de voir les siens s'élever au statut de peuple. N'en doutons pas. S'il pouvait partager avec nous ce grand moment, il nous dirait, avec encore plus d'émotion qu'en 1976, « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. »
Années 70, dans un Québec en plein changement, où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort aux gosses d'un bungalow, de QSC sur le statu quo, en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air. Quand t'es dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Es-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur? En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Il se met à rêver le samedi, qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon dimoron, t'as une chance sur 14 millions. Au stationnement d'une casino, un gosse tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot, n'avait plus trop le cœur à la fête. Mais le gouvernement s'en balance, il se nourrit à même les gamblers, en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à l'autrie. Et pendant des années, un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gosses sont tous syndiqués, s'agencent 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marres en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On en entend beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, ben ça mon homme c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Quand on a
apprends que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérendrye. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie, c'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les vendus, dans cette contrée, peuple des ignores. Pourquoi on se rappelait de son histoire, et c'est que juste les plaques de char, qui ont encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, et moi je mets mon drapeau en verre, mais j'en rêve tous les bouffons qui nous gouvernent. Et c'est ça que ça fait une nation, probable que tu sois assez con, des murs pour te présenter aux élections. C'est ça le Québec moderne, et moi je mets mon drapeau en verre. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en mer.
Les grosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent.
Le crachoir 95, celui du référendum de 95. Et maintenant, on va s'attarder aux conséquences de cette défaite référendaire qui a quand même fait vraiment peur au camp du non, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, on va dire comme ça. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont... dans un mouvement de panique, ont créé le programme des commandites. C'était c'est une espèce de stratégie qui servait à redorer le blason canadien dans le cœur des Québécois. C'était pas mal ça le but principal. C'était de la propagande fédérale. Mais le problème, c'est que c'était financé illégalement, même les fonds publics, entre autres des impôts des Québécois, puis dont la moitié avait voté pour la souveraineté. Fait qu'on prenait leur argent pour leur faire de la promotion du Canada. Ils donnaient des drapeaux gratuits, il y avait de la propagande publicitaire, il y avait toutes sortes d'affaires, un love-in complètement ridicule organisé par Jean Chrétien, je vais revenir là-dessus. Pis évidemment, tu sais, ça s'est pas résumé à ça parce que c'est le Parti libéral qui a fait ça. Puis le Parti libéral, c'est un parti qui est fondé sur des coutumes et une longue tradition de corruption depuis Louis-Alexandre Taschereau. Et bon, on pourrait se marculer plus loin que ça. Mais bon, les libéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont servis de ce programme-là pour remplir les coffres du parti. Le programme des commandites, c'est 300 millions en fonds publics, pris à même les impôts des contribuables canadiens et québécois, au nom de l'unité canadienne. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils... C'est ça, ils ont rempli leur coffre avec ça, puis le stratagème, il accordait des contrats, parce que là, c'était des gros contrats de publicité là pour justement faire la propagande fédérale. Fait qu'il accordait des gros contrats à des firmes publicitaires, des amis du parti, toujours. Puis en retour, ces agences publicitaires-là prenaient une partie de l'argent qui était octroyé par le gouvernement, qui payait pour un service. Mais ils prenaient une partie de cet argent-là pour le redonner au Parti libéral dans la caisse électorale. Fait que tu sais, regarde, je te donne un contrat de publicité, là, c'est 8 millions. Mais gars, tu prends 6 millions faire de la publicité, ben, je donne des chiffres là qui sortent de ma tête de même.
Ouais, ouais.
Tu prends 6 millions faire de la publicité, puis tu me donnes 2 millions pour comme don au parti. Là. Tu sais, c'est probablement pas de cet ordre.
Oh, ouais, non, c'est l'enveloppe.
Les chiffres sont pas très réalistes, mais c'était ça pareil. Là. C'est qu'on grossissait l'enveloppe, puis une partie de l'enveloppe qu'on octroyait à la firme publicitaire devait revenir au Parti libéral pour remplir illégalement ses coffres pour la caisse électorale.
Mais Frank, check, super facile, là, OK? Je te donne un contrat de publicité de 100 000 $ charge-moi 120 000 puis redonne-moi 20.
Oui, c'est ça. En don au parti.
Oui, oui, c'est ça, comme contribution au parti en tant que... C'est exactement ça. Exactement ça. Puis écoute, là, je vais te laisser finir, mais moi, il y en a trois autres trucs que le gouvernement fédéral a fait qu'il faut absolument que je te parle, là.
OK.
Puis qui n'est pas avant ou pendant le référendum, qui est après, là.
OK, puis qui n'est pas dans le cadre du scandale des commandites.
Qui a un peu mené à ça. Je ne sais pas si tu te rappelles du programme de loi, du projet de loi C20. Ça te dit-tu quelque chose? Le C20 doit te dire de quoi, là? Mais en fait, ça s'appelait la loi sur la clarté référendaire. Pour contrevenir à l'éventuelle possibilité qu'il y ait un autre référendum. C'est là qu'on arrive au fameux 50+1, c'est pas bon.
Oui, c'est vrai. Oui, OK, ouais, je m'en rappelle.
OK, puis après ça, l'Assemblée nationale du Québec, elle a répliqué avec la loi 99. Cette loi-là, c'était quoi? C'est la loi sur l'exercice des droits. C'est-tu qu'on l'a, l'affaire au Québec, pour dire des affaires? Tu sais, la loi sur la clarté référendaire, c'est clair, là. Tu dis, il faut que le référendum, il faut que la question soit claire.
Nous autres, on a appelé ça...
Mais non! Nous autres, on a appelé ça... Ah, si, écoute ça, faut que je prenne un respect, sérieux. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Come on,
non, mais c'est
gars.
Typiquement francophone, franco-français, là. Pour rajouter du lustre. Tandis que le Canada anglais, la culture anglaise, c'est tout de point. C'est la phrase la plus courte possible pour dire ce que tu veux dire. Ça en est une autre expression des deux solitudes.
Parce qu'il faut préciser que en 97, après le référendum, Jean Chrétien a été réélu. Et c'est en 99 qu'il a mis de l'avant le fameux projet de loi C20 sur la clarté référendaire. Et c'est un peu après ça, donc 99-ish, qu'a commencé la campagne d'influence du Canada qui voulait se rendre plus présent au Québec. Ça n'a pas eu de nom en tant que tel. Ça avait été simplement un programme là, qui visait à augmenter la visibilité du Canada au Québec. Et c'est là que Sheila Fraser, qui était vérificatrice générale du Canada à ce moment-là, a commandé une enquête qui a donné la commission Gomery. Puis le rapport de ça, il a été publié en 2006, là.
Oh oui.
Là, je te parle de la loi C20 puis de ce programme-là en 99, ish, à peu près, là. Les dates exactes. Puis c'est un peu ça qui a mené à la chute du... Tu sais, c'est des conséquences quand même sur une longue haleine. Parce que c'est un peu pour ça qu'Harper a pris le pouvoir après, là. Qu'on t'a écœuré des maudits méchants libéraux, tu sais, c'est ça.
Il n'y a pas eu justement une alliance entre le Bloc québécois puis les conservateurs pour renverser les libéraux à ce moment-là?
Ben, il y a tout eu. Ils ont tout essayé. Tu sais,
c'est arrivé beaucoup plus
tard. Ben, tu sais, t'avais Alliance Québec qui est devenue l'Action démocratique avec les bloquistes, le PQ. Écoute, tout le monde, on a tout essayé, là. Tout.
Ça fait une option quand Canada.
Moi, je me rappelle de... Comment il s'appelait, là... son nom de famille, c'était Day. Comment il s'appelle?
Stockwell Day.
Stockwell Day qui arrive avec son jet ski pour faire sa conférence de presse. Que c'est ça? T'es supposé être un gros tripeux de la droite.
L'anglais typique, là. Tu sais, l'anglais snob puis désagréable puis hautain. Comment jet ski?
Ah non, c'était mais c'est ça, je voulais pas te couper voler ton thunder, mais tu sais, puis je veux t'en parler d'une autre affaire aussi, puis celle-là on n'a pas parlé, mais ça te donne une idée pareille de jusqu'à quel point le fédéral voulait s'assurer que le nom l'emporte. En 93 au Québec, OK, les immigrants qui arrivaient, les immigrants, si tu veux, nationaux, là, tu sais, ceux qui voulaient, les gens de tous les pays qui voulaient, qui arrivaient au Canada, mais qui passaient par le Québec, OK, ben, en 93, le nombre de personnes qui ont demandé à obtenir, si tu veux, la citoyenneté, c'était 23 799 personnes, OK. Mauvaise interprétation. Le nombre de personnes qui sont vues octroyer la citoyenneté canadienne et habiter au Québec, arriver par le Québec, c'est 23 799. Ça, c'est en 93. En 95, le nombre, c'est 43 855.
Okay? Technique.
Attends. En octobre seulement, 11 400.
Ça, c'est pas mal okay. Le mois du référendum. Puis, 30 octobre.
C'est pas le mois du référendum. Le référendum a eu lieu le 30 octobre.
Mm-hmm.
Tu peux pas être plus timé que ça, là.
Non,
on, a 30 jours, les boys.
Ça s'appelle
Rentrez-moi-en.
Importer des votes. Puis c'est qui le pays qui t'accueille? C'est le Canada. Vote pour nous autres.
Et voilà. Même s'il arrivait au Québec. Fait que là, ce que tu as
vu, c'est quoi tu as pu assister?
C'est l'accélération.
Puis des petits drapeaux du Canada, des petits gâteaux avec une feuille d'érable. Puis.
Voilà. Puis là, ben, le directeur général des élections du Québec de l'époque avait posé la question, c'est-à-dire que c'est pas vrai, la question avait été posée au ministre de l'Immigration à l'époque, après, puis la réponse à ça, c'est même pas « Ah, c'est circonstanciel, whatever », non. La réponse officielle, c'est que c'est pratique courante de faire ça pendant des élections.
Donc,
ça veut dire qu'au fédéral, là, on s'entend-tu que, mettons là, que t'as un immigrant, qui veut obtenir la citoyenneté canadienne, mais lui, ça la donne de même. Il a pris un avion, il a eu un deal, il a de la famille, whatever, puis il arrive au Manitoba. Bien, le processus d'obtention de la citoyenneté canadienne est toujours moins long en période d'élection. Pourquoi? Parce que tu vas voter pour ceux qui t'ont dit, « Ben oui, viens-t'en. » Tu comprends-tu?
Mais c'est fou, là. Ils sont arrivés, puis trois semaines après, ils ont le droit de vote, là.
À peu près.
Colin.
Hein? Dans le cas du référendum, en tout cas, ça, je peux t'en parler. La seule réponse qui a été faite, il n'y avait pas de. Puis, by the way, tout de suite, l'année suivante, tu sais, parce que juste pour te montrer à quel point que, tu sais, on a beau en parler puis dire que c'est pratique courante dans le cas d'élection, mais juste pour te montrer que c'était pas circonstanciel, excuse-moi, ben, l'année suivante, la drop que l'acceptation, si tu veux, l'octroi de la citoyenneté en 96
était moindre.
Au Québec, c'était 39% de moins.
Alors, c'est assez clair. Puis Parizeau avait raison, il a juste vraiment très mal exprimé puis dit au mauvais moment dans un discours de mauvais perdant. Là.
Ouais, mais je voulais te le demander, ça, parce que je me rappelle que tu en as parlé dans l'épisode où je me souviens pas du numéro, mais que on a parlé de l'effet Mandela puis tout ça. Tu sais, on pense tous que Parizeau a dit, de toute façon, c'est le vote ethnique puis l'argent qui a fait qu'on a perdu, mais c'était pas ça qu'il avait dit.
La phrase qu'on dit, c'est l'argent et le vote ethnique, mais la phrase qu'il a dit, si je me souviens bien, là, tu me prends je me souviens bien, c'est on a été battu par l'argent et des votes ethniques.
Pas les votes ethniques, mais des votes ethniques.
Mais cette nuance-là est disparue de l'imaginaire... du public, puis c'est devenu raciste en étant le vote ethnique, mais c'est pas une grosse nuance dire entre le et des, mais c'est pas une grosse différence.
Non, mais c'est différent, moi,
mais dans le sens, c'est une grosse nuance pareil.
Moi, je trouve ça très différent parce que le vote ethnique,
c'est juste trois litres de différence, là, tandis que ça change tout le sens, mais on a retenu la perception qu'on en a eue et non pas le sens réel des mots de Parizeau.
Exact. Puis je pense qu'on en a déjà parlé aussi, mais tu sais, il y a de toute façon, je te laisse finir, mais tout le volet du scandale des commandites est un contre-coup direct quel point ça a passé proche. Là.
Oh, oui.
Parce que là je t'ai même pas parlé.
C'était pour créer ce système-là des commandites qui est.
Exact.
De toute
pièce, je t'ai même pas parlé, Frank, tu te rappelles-tu du Unity Rally qu'il avait fait à Montréal pendant le mois d'octobre?
Oui, le Love-In. Là. Ça, c'est Jean Chrétien qui a organisé ça. Il a fait venir des Canadiens anglais en autobus pour une manifestation qui était mise en scène, c'était stagé de A à Z. Puis là, le Canada anglais nous disait qu'il nous aimait. ça a été genre quelques jours avant le
c'est le 27 octobre. Mais écoute bien ça, là.
Il n'y a pas juste. 3 jours.
Oui, il n'y a pas juste dit au monde, allez-vous-en tout à Montréal, là. À ta minute, là. OK? Les politiciens fédéralistes qui étaient sur place. Sur place, là. Pas qui cautionnaient. Mm-hmm. Ils étaient là, là.
Ouais.
OK? Mike Harris de l'Ontario. Frank McKenna du Nouveau-Brunswick. John Savage de la Nouvelle-Écosse. Catherine Colbeck de l'île du Prince-Édouard, Charest, le chef conservateur, Jean Chrétien, premier ministre du Canada, Daniel Johnson, chef du Parti libéral du Québec. OK? L'autre affaire...
C'est de la gérance, peut-être, quand ça vient des autres provinces, là.
Bon, puis peut-être que peu de gens savent ça. Il y en a peut-être qui le savent déjà. Mais les participants, ceux qui ont dit « on va y aller, nous autres, là », Ils ont eu des deals, ces billets d'Air Canada, puis ils ont eu des deals sur les billets de train de Via Rail qui était une société d'État à ce moment-là. Là.
Oh oui. Oh oui, c'était illégal, mais pis ça, là, je vais te rapporter les mots précis de Jean Chrétien, OK, qui a carrément dit ça.
C'est bon.
Dernier jour! OK, je vais prendre la vraie voix.
Je le savais tellement. C'était pour faire ça.
Dans les derniers jours, j'ai dit au diable les règles, puis j'ai organisé une énorme rencontre à Montréal où des milliers de personnes sont venues de partout. Oui, tu les as fait venir. C'est quoi, pour envoyer le message à l'effet que nous voulions que le Québec reste avec nous. Ça, c'est ces mots-là. Et c'est au diable les règles. Voilà. Au diable les règles, de toute façon, je serai pas imputable, puis une fois que, ça va, que le référendum va être passé, le mal va être fait, peu importe. De toute façon, ils savaient très bien aussi qu'elle allait bien s'en sortir, puis la commission Gomery, c'était en partie une grosse joke de « je m'en rappelle pas », là.
Tu sais, puis les balles
de golf, puis le niaisage, là, ils ont carrément niaisé, là. Il est arrivé tellement fantasque, en plus, puis c'est un même s'il a de l'air idiot, Jean Chrétien, c'est pas un idiot, c'est un avocat de talent, qui d'ailleurs a poursuivi sa carrière avec la firme Inan Blakey, il me semble, après sa carrière politique. Mais non, lui, il était en contrôle. Il est arrivé confiant à la commission Gomery. Il savait qu'il s'en sortirait très bien. Moins bien que son... que celui qui s'est ramassé en dessous du train, là, comment il s'appelle?
J'oublie son nom, mais je le vois.
Jean Corriveau.
Oui, c'est ça, exactement. Lui, ça a été, l'écoute, la tête de Turc par excellence. Ben oui, écoute.
C'était Bouc émissaire, mais en même temps, c'était pas mal lui, l'acteur principal. C'est pas lui qui a créé ça. En fait, l'ordre là, de créer ce système-là, ça venait du premier ministre direct, là. Sauf que celui qui a mis en œuvre ça, c'est Jacques Corriveau, qui était organisateur du Parti libéral. D'ailleurs, John Gomery, le juge, l'a décrit comme étant l'acteur principal d'un dispositif bien huilé de pot de vin qui lui a permis de s'enrichir personnellement et de donner de l'argent et des avantages au Parti libéral canadien. Parce que oui, en plus de dans la caisse électorale du Parti libéral, ben lui aussi, il s'est graissé à la patte à la hauteur de 7 millions en ristourne. Il y a des contrats de commandite. Là. Quand je racontais tantôt qu'on donnait des contrats à des firmes publicitaires, puis on empochait un peu, ben non seulement il y a une partie qui allait dans la caisse électorale du Parti libéral, mais il y a une partie avec grâce à un stratagème qui allait direct dans les poches à Jean Corriveau. Lui a fait 7 millions, juste lui, là, juste 7. À lui, tout ça, il a fait 7 millions d'argent, de dollars avec ça. Tu sais, c'est croche en maudit, là. Puis, d'ailleurs, il a été condamné en 2017.
Oui, parce que. Ça n'a pas de sens. Le rapport a été publié en 2006.
Il a été volontairement retardé. Puis, on s'est dit, ouais, on va le laisser vieillir, on va le laisser s'en sortir. Puis, avec évidemment une peine ridicule, là, bonbon, là. Tu sais, faut l'impôt, toi. Faut le gouvernement de 10 000 piastres sur ton rapport d'impôt. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais, quand tu voles à coups de millions et que t'es un politicien influent, t'es au-dessus de la loi parce que tu t'en sors soit avec une peine bonbon ou pas de peine du tout. Lui, il s'en est sorti avec pas de peine du tout, mais c'est en même temps, c'est un petit peu à cause du karma. Parce que sa peine, il avait été condamné, si je me trompe pas, à 4 ans de prison. Puis il devait payer une amende. Ça, vous m'expliquerez ça à quelqu'un, là. Il a volé 7 millions. Il a volé 7 millions, puis son amende, c'est 1,4 million, puis il y a 10 ans, il avait 10 ans pour le payer.
Ben non, mais c'est écoute, c'est les, ça, petits, pis, les bodés du parti, les bodés à Johnny, ces gars.
C'est ouais, c'est, ouais. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas confiance en notre système de justice. C'est parce qu'il marche pas, puis il est corrompu. Puis c'est ça, le 1,4 million, là, c'est supposé être supposé correspondre au montant fraudé que le gouvernement n'a pas été capable de retracer. Puis celui que vous êtes capable de retracer, ça vous tente pas de collecter.
Ben ouais, c'est ça.
Pis non, ouais, le pire là-dedans, c'est que. Le gars a crevé avant d'aller en prison puis de payer son amende.
Mais le pire là-dedans,
il est mort à 85 ans, puis il est jamais allé. Tu sais, c'était 4 ans de pénitencier, là. C'était pas.
Il l'aurait jamais fait.
Il l'a jamais fait parce qu'ils ont étiré ça jusqu'en 2017, jusqu'à ce que tu crèves, tabarnak. Ça a pris 11 ans faire cette enquête-là. 11 ans! Ça se peut pas qu'après 9 ans d'enquête, t'as des nouvelles informations, là, c'est impossible, je crois pas à ça.
Mais surtout dans une cause de même.
Surtout
c'est pas comme si.
Surtout que ça a été mis au jour.
Tu sais qu'il manque, tu sais, il manque quoi, là? Non. Le gars, il a volé 7 millions, tu y en collectes 1,4, tu le mandes dedans à 4 ans. Next. Tu veux dire?
C'est ça. Sauf que quand c'est quelqu'un d'influent, de puissants et de riches. La justice ne suit pas son cours de la même façon. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu que le gars crève de vieillesse à 85 ans ou quelque chose du genre. Puis on n'a jamais appliqué la sentence. Ouais. Puis bon, là j'ai parlé de lui, mais il y avait Chuck Guité, Alfonso Gagliano qui nous a donné bien des rires. Jean Pelletier qui était chef du cabinet du premier ministre. Il me semble qu'il a été maire de Québec, si je me trompe pas, Jean Pelletier, avant Jean-Paul Lallier. C'est pas mal cette gang-là qui ont coordonné ce programme-là. Puis évidemment, il y avait Jean Chrétien qui avec son Lovin, puis d'ailleurs, je n'ai pas mal de son
bureau. Mais tu dis quoi, Frank?
Oui.
Tu sais, tu parles de Corriveau, tu sais, qu'il y a eu une sentence bonbon, puis que finalement, écoute, le carreau en a voulu.
Une sentence post-mortem.
Ouais, c'est ça, mais l'affaire qui arrive, là, qui me fait capoter, là, c'est que, tu sais, pendant toutes les délibérations, pendant toutes les représentations devant le juge Gomery, pendant tout ça, tu écoutais la radio, tu lisais les journaux, tout le monde était scandalisé, puis écoute, mettez-moi le feu là-dedans, puis... Puis là, ben regarde, après que la sentence a été prononcée, puis on étire, puis écoute, on se fait aller le labyrinthe judiciaire. Il n'y a pas un esti de chat qui braille.
Ben non,
parce que c'est fini, c'est classé, regarde.
Ben, la même année là, que le rapport a été déposé, c'est le Canadien fait série, c'est fini.
Ah ben oui, c'est clair.
Mais comme ça au Québec, notre plaque, c'est notre devise, c'est « je me souviens ». Mais Colin, ça peut-tu être plus loin de la réalité? Je sais pas qui a dit ça, ça devrait être, je m'en rappelle plus, mais il a raison. Je pense que c'est un humoriste, je pense, qui a dit ça. Il dit, notre devise, ça devrait être, m'en rappelle plus. Ouais. Puis on l'a bien vu. On le voit à toutes les maudites commissions d'enquête, à toutes les fois que la corruption devient insoutenable, on en fait une commission d'enquête où les accusés vont dire, m'en rappelle plus. Puis tout le monde s'en sort bien. Il y a tout le temps des porteurs de valises qui se ramassent avec des blancs, puis les vrais coupables, les big shots, ils se ramassent, ils n'ont jamais de problème.
C'est pire que ça, Fred. Parce que je veux pas changer de tal, mais on va être dans le même grand angle, là, le même sujet. C'est tout ce qui a été la corruption au niveau des octrois de permis de construction, puis tout le kit. C'est le bon. Ben, tu sais, même le monde qui se sont fait prendre, ils veulent continuer de sonner l'alarme. Tu sais, je pense à un gars comme Lino Zambito, mettons, tu sais, il veut continuer d'en dire des affaires, puis il est obligé de passer par des... Écoute, il n'y a pas d'antenne pour ce gars-là. Là.
Non, non.
Comprends-tu? Mais lui, il pourrait continuer. Lui, il a payé ses 12, là, tu sais, ce qu'il a eu comme conséquence, ben écoute, il l'a...
Écoute, peut-être qu'ils ont roulé, là, d'une couple de mères, là.
Oh, non, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que mon point, en fait, est super simple. C'est qu'à partir du moment, peu importe ce qu'elle est, qu'il y a une conclusion, juste une conclusion, que la conclusion soit de la marde ou pas de la marde, ben, c'est fini. On a, j'ai enlevé, tiré fort sur le plaster. C'est terminé. Il y a eu une commission d'enquête. Mais nous autres, en attendant, par exemple, on continue de se faire imposer comme des hosties de jambon. Puis on continue de commencer à être payé dans la vie à 1h de l'après-midi. Ouais. Parce que pour financer toutes ces schemes-là, puis ce manigançage-là. Puis après ça,
une commission d'enquête une fois de temps en temps pour nous calmer puis nous faire croire qu'on s'occupe de la corruption, mais c'est toujours une pièce de théâtre, ça donne jamais rien, les coupables sont jamais punis, puis l'argent nous est jamais rendu. C'est drôle, hein, comment est-ce que il est reconnu coupable, tout ça, comme notre ami de tantôt, là, il a fait 7 millions, alors donne-nous-en 1,4, puis ça va être correct. C'est quoi, ça? Moi, si je crosse l'impôt de 10 000 piastres, gâche-tu qu'il faut que je leur donne 15 000?
Ben moi, je vais te citer un très grand manager de lutte qui s'appelle Jim Cornette, qui a déjà dit, si tu crosses une personne, t'es un croche. Si t'en fourres 10, t'es un crosseur. Mais si t'en fourres 1 million, t'es un génie.
Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, laisse-moi pas tomber. Mon Dieu, donne-moi une job, je vais commencer en bas de l'échelle. Je vais pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Mon Dieu, donne-moi une job, puis je te jure que je vais me caser.
comme le veto tous les matins, puis je te promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me referas à l'église, à genoux devant le curé. Pour Dieu, laisse-moi pas tomber. Avec le public, je suis bon vendeur, j'arrive à la vie, je bois moins qu'un alcoolique. Bon Dieu, donne-moi un job, je me mets à bûcher comme un viet. Il faut que je fasse de quoi de moi, cette année d'attendre après mon chèque. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me feras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Bon Dieu, donne-moi un job, n'importe laquelle ferait mon affaire, n'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Bon Dieu, donne-moi un job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi, si vous voulez, un pourcentage sur mon salaire. Et si jamais tu me donnes un job, tu me feras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber.
Le cachoir 95, celui du référendum de 95 qui non seulement est le titre du show, mais pas mal le thème du show complet, ce qui est assez rare qu'on va consacrer un show complet à une thématique comme ça. Ouais, le référendum, on a tiré ça un petit peu avec le scandale des commandites, ce qui est arrivé après. Puis on va en rajouter une autre couche avec Martin.
Ah oui, absolument. Écoute, moi je me suis intéressé plus à l'angle... mais encore, tu sais, aujourd'hui, 25 ans plus tard, tu sais, on est où par rapport à ça? Puis, écoute, c'est sûr que la question nationale ou de l'indépendance est un peu évaporée. On pourrait énumérer un paquet de raisons, là, mais j'étais curieux quand même de savoir qu'est-ce que, tu sais, les sondeurs, tu sais, ce qu'ils ont fait des trucs récemment, tout ça. Puis ce que j'ai pu trouver, en fait, c'est intéressant. Ça date du début, en fait, 2019. Donc, je pense pas que tout ait changé, tu sais, qu'on soit diamétralement opposé au début 2019. Puis
des fois, ça dépend qui commande le sondage. Hein? Si c'est le Parti québécois,
non, je comprends.
La souveraineté est en vogue chez les jeunes. Puis si c'est n'importe qui d'autre qui fait le sondage, bien, la souveraineté est morte chez les jeunes.
Ouais, ben en fait là, dans ce cas-ci, ce que j'ai utilisé, c'est un article de la presse qui avait été le résultat de recherche de 6 instituts de recherche. Donc c'était pas un sondage commandé là, un peu comme à la léger ou
là,
peu c'est, importe.
S'il y a plusieurs études qui sont comme colligées, des données qui sont colligées de plusieurs sources, ça devient plus crédible.
C'est intéressant, c'est ça. C'est pas indépendance.org qui a publié ça. C'est la presse.
Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que des fois, ça m'est arrivé tellement souvent de tomber sur des sondages comme ça. Puis quand je me rappelle, dans mon ancienne vie, j'avais interviewé Pauline Marois, puis elle essayait de me faire croire en onde que les jeunes tripaient sa souveraineté, puis que le projet est en train de revivre. Puis j'ai essayé d'expliquer, j'ai écouté Mme Marois. C'est sûr que les jeunes de votre entourage, puis quand vous êtes sur place, il y a des bonnes chances pour qu'ils soient d'accord avec vous, mais je suis pas sûr que votre échantillonnage de la jeunesse québécoise est représentatif ben. Là. Elle n'en démordait pas, là. Elle, c'était non, je vous le dis, tous les jeunes, là, ils croient à la souveraineté, puis c'est un projet d'avenir, puis OK, pour moi, c'est
un projet de passé. On va y répondre. On va y répondre à Mme Marois parce que en mars 2019, en fait, les résultats de ces recherches-là ont démontré que, en fait, auprès des 18 à 24 ans, on est-tu dans le bullseye des jeunes de Mme Marois, là?
Ben, ouais, mais ce que je te raconte, ça se passe en 2010, là. Quand
OK, regarde. 18 à 24 ans, le pourcentage de jeunes de 18 à 24 ans, début 2019, qui se déclaraient indépendantistes, c'est 18 %. OK? Donc, personne.
C'est très faible, ouais, c'est ça.
Et voilà.
La plupart, c'est juste parce qu'ils ne s'intéressent même pas à cette question-là.
Voilà, ben tu viens de mettre le doigt sur le bobo. L'autre affaire, c'est que pour tous les âges confondus, et c'est là que tout ce qu'on s'est dit depuis le début avec Jay prend son sens, 54% se disent entre les deux.
Hey.
Ils peuvent pas répondre.
Ben c'est parce que c'est pas d'actualité, la question est pas débattue, fait qu'ils savent pas. Regarde, moi-même, je ne sais pas.
Fait que regarde, il y en a 54% qui sont entre les deux, il y en a 23% qui se disent fédéralistes, puis il y en a 23% qui se disent souverainistes. Ça, c'est toute la population entière.
Oui, oh, et puis dans les 23%, il y a à peu près 99,9% de boomers qui sont des nostalgiques des deux référendums perdus. C'est un projet, pour l'instant, la souveraineté du Québec, c'est un projet du passé. Ça appartient au passé, puis la journée où un parti souverainiste remettra ça sur la table de façon sérieuse, puis pas juste pour faire bander les vieux boomers qui sont nostalgiques pendant les élections, là, quand ils vont remettre ça sur la table pour vrai, là, on aura peut-être un portrait plus précis de ce que la population veut, mais là, la question se pose même pas, fait que, je veux dire... Les gens, il y en a beaucoup, comme tu dis, qui sont entre les deux, qui ne savent pas. Même moi, je suis comme tantôt, quand on s'est posé la question, comment on voterait, j'ai dit, ça dépend. Ça dépend parce que je n'ai pas les options, là.
Ouais, mais attends, Gabin, je continue. 55% des Québécois qui ont été sondés dans ces 6 recherches-là disent que l'idée de la souveraineté s'est dépassée. Okay? Mais il y en a 54% qui se disent entre les deux pareil, là. Mm-hmm. OK? Après ça, l'autre constat qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas plus susceptibles qu'ils ne l'étaient au lendemain du référendum de dire que leur province est traitée avec le respect qu'elle mérite.
OK.
Je continue parce que j'ai une conclusion à ça, là, mienne. Là. OK. 46% des Québécois sont très d'accord avec l'idée que le fédéralisme canadien a plus d'avantages que de désavantages. J'aimerais ça les rencontrer, moi, ces gens-là.
tu leur expliqueras ta raison sociale.
Oui, c'est ça. Fait que le résultat, le constat, en fait, c'est que la question nationale, elle est tout simplement évaporée. T'sais, c'est qu'elle existe encore. T'sais, un peu comme une bruine. Là, t'as sens sur ton bras, mais elle sèche en 2 secondes.
Non, mais c'est comme un vieux char, mais il n'y a plus de gaz, puis la batterie est morte.
C'est ça.
Il existe encore, le char, mais il ne part plus.
Mais attends, après ça, dans les résultats du sondage, en fait, de la recherche, c'est pas un sondage, je précise, c'est pas un coup de téléphone sur l'heure du souper, là. Okay?
C'est une étude.
Oui, c'est exactement. En fait, ce sont 6 études. Je vais même te donner le nom si du monde va aller vérifier nos sources.
C'est sont du monde, ces chiffres-là.
La Confédération de demain, un sondage des Canadiens. Ça s'appelle comme ça, OK? 46% des Québécois, non, ça, je l'ai déjà dit, c'est celle-là ici qui frappe vraiment, là. 7 répondants sur 10 croient que la langue française est menacée. Mais le fédéralisme, ça marche.
Non, mais peut-être que le fédéralisme marche d'un point de vue économique.
Ben,
c'est pas juste l'aspect linguistique, là, la souveraineté, Martin, que tu sais.
Ben, eux autres, ils ont décrété dans leur conclusion que c'était très surprenant parce que, justement, l'attrait de la souveraineté, ça a toujours été en corrélation avec la langue.
Parce que c'est bien plus facile à comprendre puis à vendre dans une campagne électorale les différences culturelles puis la langue que d'expliquer l'économie à un gros pourcentage de la population qui comprend pas puis qui veut rien savoir de ça. Là. C'est des relations publiques. Faut que tu donnes un show. Là.
C'est clair.
Si t'es tout le monde avec des chiffres, là, ils comprendront pas puis ils voteront pas pour ça. Là.
Mais regarde, tu vois, les Québécois francophones de 55 ans et plus pour eux autres. 73% de ces répondants-là disent que la langue, c'est un facteur important de leur identité. C'est bien sûr, Chris, ils n'apprendront pas l'anglais demain, là.
Ouais, c'est ça.
Puis ils n'ont pas à faire business tant que ça. Puis tu vois, des 18 à 24 ans, il y en a juste 44% qui pensent de même. Ben, c'est bien sûr, ils se textent en anglais avec des... je l'ai collé, puis tu sais, bon, puis oui, je, oui. J'en suis, là, je peux pas dire. Fait qu'écoute, même m'a dit pire que ça, parce qu'il y a eu toutes les questions de péréquation, puis tout ça, il y a juste 34% des gens qui ont été sondés qui pensent que la province de Québec reçoit moins que sa juste part par rapport à la péréquation. Même ça, si on venait à bout de t'sais, pas d'endormir, mais t'sais, regarde, là, la péréquation à Star, là, c'est pas un sujet polémisé, c'est, regarde, c'est de même, puis on a notre cote, puis d'attitude, là, t'sais, mais fut un temps où est-ce que la péréquation, c'était rien que ça, là, t'sais, c'était le mot le plus payant au Scrabble au Québec pendant un méchant bout, là. T'sais, fait que moi, dans le fond...
la péréquation, là.
Ben, c'est exactement ça. Il y a toutes
sortes d'interprétations, là. Tu sais, on peut l'interpréter d'une façon que le Québec, c'est comme le BS du Canada, mais il y a d'autres façons de l'interpréter où c'est pas vrai du tout, là, tu sais. Ça, on pourra en parler dans un autre show de ça.
Il y a une autre affaire bien intéressante qui ressort de ça. Et c'est la suivante. Il y a 16 ans, 49% des Canadiens, donc hors Québec, disaient que leur attachement principal était au Canada.
Et pas à la province.
Okay. Là, c'est 40. Tu sais, sur la quantité de monde, 9%, c'est pas, écoute, c'est pas un drame, là, mais ça moi, je pense que ça démontre une tendance. Oh, tu sais, que on est tous un peu le fruit de notre province.
Une tendance isolationniste des provinces.
Voilà. Là, après ça, ben, on s'en va direct dans le nerf de la guerre, OK? 67% des Ontariens, parce que c'est eux qui avaient été, qui ont utilisé en exemple, mais en fait, ils ont utilisé deux provinces en exemple. Ils ont utilisé Terre-Neuve, puis ils ont utilisé l'Ontario, OK? Puis la question, c'était, est-ce que vous croyez que nous partageons des valeurs communes? En Ontario, là... Eux autres, ils pensent, dans une proportion de 67%, qu'ils sont absolument ou plutôt d'accord avec cette idée-là. Donc, la Colombie-Britannique puis le Manitoba, là, il y a 67% des Ontariens qui pensent qu'ils ont des valeurs communes. À Terre-Neuve, c'est 60%. OK? Fait que, comment tu veux interpréter ça, puis après ça, te dire ça marche, cette histoire-là, là?
Ouais.
Il y a aucune, tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a aucun fil conducteur, tu sais. On peut pas tirer aucune conclusion définitive qui ferait du sens, là.
Il y a pas d'identité canadienne claire tant que ça non plus.
Ben, c'est un peu ça que je dis moi-même, là, ouais. C'est un peu ça que je prétends. Parce qu'écoute, là, on lâchait les chiffres un peu, là, tu sais. Moi, juste te donner une donnée qui va illustrer mon point, puis j'aurais même pas besoin de continuer plus que ça. On n'en parle même plus.
Sauf quand on se compare aux Américains. Là, on en voit une. Là, on en voit une identité canadienne, puis on aime ça, se dissocier des Américains. De... On couche pas avec nos guns, puis...
Non, moi, je parle de la souveraineté. Je parle de la souveraineté. On n'en parle plus.
Non, c'est vrai.
On n'en parle plus. Tu sais, combien de fois, là, une gang de chums qui sont pas...
Pourquoi on n'en parle plus? Parce que c'est plus dans l'actualité. Puis pourquoi c'est plus dans l'actualité? Parce que c'est pas payant pour les partis souverainistes d'en parler. Le Parti québécois, s'ils parlent trop de souveraineté, là, ils font peut-être triper leur base électorale, là, des vieux grincheux, mais ils font fuir les plus jeunes, tu sais, puis ils vont s'aliéner une partie de la population. Puis s'ils parlent trop de référendum pendant une élection, ils seront pas élus.
Mais de toute façon, tu dis ça, les partis indépendantistes. Quel parti indépendantiste?
Ben, le PQ, c'est le Québec solitaire.
Ça fait 3 ans.
Hein?
Le PQ, ça abomme, ça fait 2 ans que c'est tout croche, puis qu'ils sont pas capables de trouver un chef. Ah, c'est
plus longtemps que ça, là.
Non, mais tu sais, mettons, vraiment, là, la descente là, aux enfers.
Depuis
là,
Bernard Landry, ils n'ont jamais eu un chef très solide.
T'as raison.
Ils n'ont jamais eu de chef solide. Ils étaient des 2 ans.
La question indépendantiste n'est plus vraiment, je te dirais, au centre. C'est plus rendu un by the way, là,
oui, absolument.
Qu'un programme électoral.
Non, les autres,
Bloc québécois, j'ai jamais compris. Là, je comprends, Mais, tu sais, moi, pour moi, call me old school, mais tu sais, pour moi, un parti politique, ça devrait être fondé pour prendre le pouvoir.
Puis, de toute façon, le Bloc québécois, qui a été fondé par Lucien Bouchard, ne devait plus exister après le référendum.
Ah non, c'est ça. C'était
quelque chose de temporaire, tu sais.
Hey, ça s'est ramassé opposition officielle.
Ben oui, mais écoute, c'est des bonnes jobs, ça, des députés, puis...
Non, je comprends, là, puis tu sais, c'est ça qui est arrivé après, c'est justement, tu viens de le dire, c'est que là, après ça,
puis on fait des gains pour le Québec, le Bloc québécois, là, puis à toutes les fois que le Bloc québécois fait un gain pour le Québec, il enterre un peu plus creux la cause souverainiste, je sais pas pourquoi ils font ça.
Ah non, c'est ça, fait que tu sais, moi, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai posé la question tantôt, puis moi, je continue de dire que, tu sais, s'il se présentait une autre opportunité d'un autre référendum, ou peu importe, je voterais oui. C'est bien sûr, Frank, que je suis pas un tata qui scraperait mon vote de même. Si c'est un imbécile qui veut faire l'indépendance du Québec, j'y penserais probablement deux fois.
Je pense que tu voterais avec ton cœur avant ta tête s'il y avait un référendum.
Probablement,
peut-être
oui.
Peut-être que moi aussi. Parce que l'identité culturelle ou la différence, disons, entre le Québec et le reste du Canada, elle existe beaucoup encore. Puis on se sent pas... Je connais pas beaucoup de Québécois qui se sentent canadiens comme un Ontarien va se sentir canadien. T'sais.
Non, moi j'en connais aucun.
Moi j'en connais, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. On est vraiment une autre nation. Puis ça a été un coup de maître de Stephen Harper de dire ça comme ça, que le Québec est une nation au sein d'un Canada uni. Mais ils ont quand même réussi à faire admettre que le Québec était une nation. Mais maudit qu'il a été habile de trouver cette tournure-là au sein d'un Canada uni. Ça avait été très drôle quand il a dit ça.
Moi, Frank, là, regarde, tu sais, c'est bien beau, tu sais, chialer ou peu importe, émettre notre opinion, tu sais, sur l'indépendance. Puis là, on se pose la question, puis on dit, on doute qu'on voterait oui, puis ça dépend de qui, puis tout le kit. Moi, Frank, je vois deux possibilités qui pourraient faire en sorte que l'indépendance se produise. OK? Ce sont deux probabilités très minces, en lesquelles je crois plus ou moins, mais j'en vois juste deux. La première, ce serait qu'on trouve notre John F. Kennedy québécois.
Un leader.
En ce moment, tout ça, là, leader inspirant, droit, tu sais, qui va nous mener à la terre promise, tout ça, là, un René Lévesque fois 14, là, OK? Là, en ce moment, sur le marché, j'en vois pas. OK? J'en vois pas. La seule autre scénario, ça serait que ce soit qui ça voudra, Trudeau, le prochain premier ministre, s'il se représente pas, peu importe, là. Ça serait que le Canada fasse la pire gaffe possible envers le Québec. C'est quelque chose de vraiment dégueulasse, là.
Ben oui, mais
épouvantable,
ils feront pas ça. Ils feront pas ça parce qu'ils ont ben trop peur.
Ben oui, ça arrivera pas. J'ai pris soin de dire que c'était infiniment peu probable.
Donc, ça arrivera jamais, finalement, selon ton analyse.
Ben, moi, écoute, je me ferais peut-être pas d'amis, mais tu sais, j'étais un peu dans le team de Gilles Proulx par rapport à ça, que j'écoutais beaucoup à cette époque-là, puis pendant tout le temps qu'il était en onde. C'est que c'est à se demander si la job de colonisation, pas là, mais tu sais, dans notre passé, a pas été tellement bien faite que là, quand ça vient le temps de flusher notre, entre guillemets, prêtez-moi pas de parole, mais entre guillemets, quand vient le temps de flusher notre bourreau, ou notre géolier, on n'est pas capable, on a la chienne.
Ben oui, ben
c'est... là, tu peux arriver ici, puis avec ça, puis les trucks de la Brink qui partent d'Ottawa, puis qui s'en viennent à Montréal la veille du référendum pour supposément venir chercher l'argent. Tu sais, tous ces vieux trucs-là, puis ces vieilles patentes à gosses-là, quand on est aux urnes, on pogne les hosties de quételle.
C'est pour ça que j'ai surnommé les isoloirs où on vote des urinoirs au Québec, parce que c'est là que le Québécois se pisse dessus. Voilà. Mais on a été drillé comme ça. Premièrement, on était, tu sais, tu disais bourreau, geôlier, mais on a vraiment été opprimé par les anglophones au Québec très longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, là, pendant longtemps, là, les Québécois étaient réduits à des jobs de sous-fifre, puis il y a juste des anglophones qui pouvaient accéder à des positions de cadre, se partir en affaires, devenir boss dans une compagnie. Toutes les jobs importants, toutes les positions, c'était toutes des anglophones qui avaient ça. Même au gouvernement du Québec, on donnait les finances toujours à un anglophone. C'était une tradition, là. Les partis donnaient toujours à un député francophone, un ministre francophone, le ministère des anglophone, le ministère des Finances, parce que l'argent, c'est les Anglais, puis nous autres, on connaît rien là-dedans, hein, on n'avait pas confiance, on n'était pas capable. Puis, c'est même Duplessis, qui a participé comme à une certaine émancipation, entre guillemets, là, entre gros guillemets, du Québec. Lui-même a fait ça aussi. Là. Puis a comme souscrit à cette tradition-là. Puis non seulement on avait ça d'un côté, puis quand les Anglais ont conquis le Québec, le Canada, ça s'appelait le Canada dans le temps, là. Le Canada, ça désignait le Canada français, c'était nous autres. Là. Après ça, le terme s'est élargi, puis les Anglais nous l'ont un peu volé, puis le Canada, c'est devenu le pays, c'est devenu tout le monde. Mais avant, c'était t'avais les Anglais, puis les Canadiens, les Canadiens, c'était les Français, là, les colons français, les descendants des colons français. Quand les Britanniques ont conquis ce territoire-là, ils ont fait quelque chose qu'ils font pas souvent, qu'ils font pas d'habitude quand ils prennent possession d'un territoire et de sa population. Ils nous ont permis de garder notre code civil, qui était français, le code de Napoléon, et ils nous ont permis de garder principalement notre religion catholique. Ils ont pas poussé le protestantisme comme ils faisaient d'habitude dans les territoires conquis. Probablement pour la simple et bonne raison que le catholicisme, ça faisait de nous des moutons, des victimes idéales, parce que dans cette religion-là, je trouve tout le temps une twist religieuse à toutes, mais la religion a forgé notre nation, puis beaucoup de nations aussi, à part la nôtre. Mais ça fait de nous des gens qui, comme le commande la religion catholique, ne se rebelle pas. Quand on est frappé sur la joue droite, on présente la joue gauche. Qu'on aime ceux qui nous oppriment. Ça, c'est des paroles de Jésus, là. Aimez ceux qui vous oppriment puis qui vous persécutent. Puis, tu sais, fait qu'on avait cette mentalité-là de se résigner plutôt que de se défendre puis de se révolter. T'sais, les patriotes de 37 n'étaient pas nombreux, là, parce que la majorité... On était dans cette mentalité-là, puis ça a été pas mal payant pour les Anglais qui nous ont dominés longtemps. Puis on pourrait dire que le fait qu'on soit encore dans la Fédération, on pourrait dire qu'ils nous dominent encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, puis jusque dans les années 50-60, la domination était encore totale. Si vous aimez le hockey, allez chercher le film, si vous n'avez pas vu ça, le film sur Maurice Richard Roy Dupuis. On voit très bien cette réalité-là. C'était dépeint aussi dans d'autres séries, d'autres films. C'est pas...
Non, mais Frank, garde. C'est de très bons exemples. Là. Allez vous chercher le livre noir du Canada anglais.
Ah, ben oui, de Norman Lester.
Terminé. Moi, je les ai tous lus. Et
il a perdu sa job à la Société d'État à cause de ça, hein?
Il y a des moments où, littéralement, j'ai dû lâcher le livre parce que j'étais trop en crise.
Trop de rage. Ben oui, je comprends.
J'étais enragé, puis j'étais en compte juste une, OK? Quand ils ont pris le contrôle, puis que les cantons de l'Est sont devenus les Eastern Townships, qui ont divisé ça en cantons, puis tout le kit, là. Quand ils prenaient possession d'une terre, là, à plusieurs reprises, ce qu'ils faisaient, c'est que le détenteur de la terre, il le coupait en morceaux, puis il le donnait à manger à ses cochons. OK? Si, puis là, je veux pas partir, écoute, là, regarde, ce sont des choses historiques, là, qui ont pas de sens, puis qui perdent pas de leur dégueulasserie parce que c'est arrivé il y a des centaines d'années, c'est pas ça mon point, mais je pense que il y a une large partie de judéo-christianisme et de colonialisme dont on souffre encore.
Ah oui, pis, ben oui, c'est encore dans notre mentalité.
Puis... Là, tu me dirais, ouais, mais les 18-24, eux autres, tu penses qu'ils ont lu Norman Lester? Tu penses qu'ils sont en crise après les Anglais? Puis, blablabla. Non, pas du tout. Eux autres, c'est différent. Ils s'en calissent.
Ouais.
C'est juste ça.
Ah, ben, ils sont pas au courant.
Fait que c'est ça qui m'amène à dire que les deux seules raisons. Mais non, fait que c'est ça qui m'amène à dire que les deux seules raisons possibles, ça sera pas notre contexte historique. Ça sera pas la fin de cette rébellion-là. Puis on peut-tu, s'il vous plaît, crier ça à la reine dehors? Puis tout ça. Non, ça sera pas ça. Ça va être quelqu'un qui va tellement nous inspirer, qui va tellement nous faire en sorte qu'on va avoir confiance en lui, puis il va tellement nous présenter un plan qui a de l'allure, chose que je pense pas qu'il va arriver. Sinon, il va falloir que le Canada fasse caca dans le lit à tel point qu'on veut le crisser dehors. C'est les seuls deux. Ou, comme Jay a dit, c'est un scénario auquel j'ai pas pensé, mais qu'eux autres nous mettent dehors, mais ça arrivera jamais.
Ben non. Certainement.
Hey, fait que Frank, j'ai une toune pour toi.
Vas-y donc.
La toune parfaite, en fait, pour tout ce qu'on vient de se dire, là, et c'était la raison, en fait, de mon choix, parce que c'est un artiste que j'aime bien. Écoute, ça fit à tous les points de vue, OK? Le gars, le nom de cet artiste-là, c'est Steve Hill.
Un anglais.
Mais Steve Hill, c'est un francophone de Trois-Rivières, genre, qui s'appelle Stéphane Lamontagne.
Et qui est un virtuose, là.
Virtuose à guitare, incroyable. Sa toune est en anglais. Et ça s'intitule « Gotta be strong ». Et je pense que c'est très approprié pour les propos que nous tenons. Alors, je vous présente une toune d'un artiste francophone qui se nomme en anglais, puis qui chante en anglais, puis qui fait rayonner, espérons-le, le Québec partout dans le monde, parce qu'écoute, ce gars-là est en demande partout. Mm-hmm. Et je vous présente, bien sûr, Steve Hill, « Gotta be strong ».
Crachoir 95. Oh, il reste pas mal juste la poutine commerciale et promotionnelle qui nous reste à faire avant de vous présenter le mash-up, qui n'est pas un mash-up cette semaine, mais on va y revenir d'abord. La parole à Martin, monsieur le de prod.
Ben oui, je vais faire ton bout de préféré, en fait, Des fois, je me demande si tu, je ne fais pas partie du crachoir juste pour t'éviter de faire ce bout-là. Non, non, j'y arrive, évidemment. Mais non,
j'ai
effectivement, Frank,
cette
écoute.
Partie-là.
Oh non, c'est bien good, c'est bien correct. Là. Ben évidemment que si vous êtes en train de, je vais faire ça court parce que je sens que nous nous sommes beaucoup exprimés aujourd'hui. Évidemment, si vous êtes en train de nous regarder, tu vois, là je suis supposé être king
de nous regarder, ben c'est illégal puis
c'est ça, je sac ton camp sur mon balcon. Mais non, évidemment, si vous êtes en train de nous écouter sur radio. Oui, c'est ça. Si vous nous écoutez présentement sur Radio H2O, on vous dit merci beaucoup. Sachez que vous pouvez le faire si vous nous écoutez évidemment en téléchargement en exclusivité sur radioh2o.ca à tous les jeudis soirs, le tout débutant à 20h. Sinon, on est disponible évidemment, vous le savez, sur toutes les plateformes. Allez faire un tour, évidemment, c'est très simple. Si vous vous rendez sur lecrachoir.com, vous allez trouver tous les liens pour nous télécharger au moyen de votre podcatcher favori, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Play, Spotify, ou tout bon podcatcher Android. Moi, je suis excité, Frank. Je veux savoir c'est quoi le mashup. Là.
C'est pas un mashup.
C'est vrai, tu l'as dit, mais je suis un peu déçu, je vais te le dire. J'aime tellement
ça. Tu le seras pas quand tu vas entendre ça. Je voulais faire un clin d'œil parce que au Festival d'été de Québec, parce que cette semaine, on a appris que Rage Against the Machine allait être là. Donc, j'ai déterré une version de Killing in the Name de Rage. Mais bon, c'est une version... atypique, disons, avec d'autres instruments que ceux auxquels on est habitué, c'est-à-dire contrebasse, violoncelle, violon, accordéon. Ça donne une version qui est orchestrale d'une toune qui est assez alternative, mais assez élevée pareil. Puis ça donne le goût d'acheter s'acheter une pause puis de planifier ses vacances pour que ça fitte avec le Festival d'été de Québec parce qu'ils viennent pas souvent Rage au Québec. Puis c'est un band qui commence à avoir du millage pas mal. Si vous avez la chance d'ailleurs, allez-y là.
Ah oui, d'ailleurs, Frank, tu sais, quand on fait toujours des recherches, évidemment, là, pour l'épisode 95, ça n'a pas été trop compliqué, là. Mais j'en avais fait quand même, là, juste pour si on voulait mentionner d'autres choses.
Moi,
de bien important.
Juste aller lire ma plaque de char.
C'est ça. Mais dans les bandes populaires de 95, il y avait Rage, là.
Oh oui, absolument.
C'est pas d'hier que Morello puis toute la gang, ça roule, là. Puis écoute, Festival d'été de Québec, moi, à toutes les années, tu sais, je pense que je t'en ai déjà parlé hors micro. Je suis pas un tripeux des grosses foules puis tout. J'ai un petit côté agoraphobe, un peu ses bords. Mais pour Rage, là, je te jure que ça. Dès que j'ai vu l'annonce, ça a commencé à me travailler. Fait que.
Moi, le Festival d'été de Québec, c'est mon festival préféré avec le FME. J'en ai pas manqué beaucoup. J'en ai manqué plus dans les dernières années parce que, bon, là, je vis à l'autre bout du monde, dans le fin fond de l'Abitibi. Mais Festival d'été de Québec, c'est parmi mes meilleurs souvenirs de show puis de festival. Tu sais, il y en a beaucoup des festivals avec des shows, mais celui de Québec, premièrement, c'est ma ville. Puis... c'est tellement
bien. T'es pas né à Montréal?
C'est toutes sortes de... Ouais, je suis né à Montréal, mais j'ai plus grandi à Québec. J'ai vécu partout, tu sais. Je suis né partout, mais j'ai grandi le plus dans la région de Québec. Et puis, j'ai tellement eu accès à des shows intéressants, puis j'ai fait des découvertes grâce à ce festival-là, parce qu'il n'y a pas juste les gros shows, c'est plein d'Abraham. Il y a des shows pigeonniers, il y a des shows un peu partout. Puis quand on s'intéresse à ces shows-là, on fait des découvertes incroyables. Puis j'ai eu des... le privilège de voir Primus sur la grosse scène des Plaines d'Abraham. Puis l'année d'après ou l'année précédente, en tout cas, à une année d'intervalle, j'ai vu l'autre projet de Les Claypool, qui est le bassiste et leader de Primus. Ça s'appelait Of Fungi and Foe. C'était avec genre deux percussionnistes, un xylophoniste. Puis lui, il jouait de la contrebasse. C'est totalement un autre style de musique que Primus, mais c'est évidemment c'est un virtuose, fait que c'est vraiment trippant d'écouter ça. D'ailleurs, l'album, trouvez ça, tapez ça sur YouTube, Les Claypool of Fungi and Foe. C'est écœurant. J'ai vu ça grâce au festival. J'ai vu NoFX, j'ai vu Rammstein, j'ai vu Metallica, Paul McCartney, tu sais, des gros shows, là, tu sais, que d'habitude, ça coûte 150$ le billet, mais là, tu t'achètes la passe, puis t'as tout ça gratuit après, gratuit. Tu sais, un prix dérisoire, là. Tu sais, la passe, elle se paye dans la première journée, si tu veux, là, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce festival-là. Puis, ils vont chercher des artistes intéressants.
C'est le gros festival.
C'est le plus gros festival de musique, je pense. Puis je
les
pense
noms
que
vont chercher.
Un des festivals qui sont les plus à l'écoute de leur public parce qu'ils ils nous donnent ce qu'on veut. Puis il y en a pour tous les goûts, puis vraiment pour tous les goûts, là, pas genre hey, cette année au festival, on en a pour tout le monde, on a de la pop, on a de l'électronique, puis on a aussi du rock avec France d'amour, tu sais.
C'est,
ouais,
c'est ça. Non, mais c'est ça. À toutes les fois tu dis le mot Primus, je peux pas m'empêcher de sourire puis de me rappeler, quand on en a déjà parlé, je sais pas à quel épisode, de Les Claypool, genre qui se fait dire par Metallica, ben non, t'es ben trop bon pour nous autres.
Ouais, toi, t'as ton propre projet, t'as tes affaires, là, je me reste
ah ouais, t'as ça, pas
là,
besoin de nous autres.
Il y avait raison, il se serait pas épanoui dans Metallica.
Non, c'est clair que non, tu
il se serait ramassé en arrière, on l'aurait pas entendu, le meilleur bassiste de tous les temps, ça aurait été un gâchis incroyable, même si j'étais un gros fan de Metallica, mais la bass, c'est pas un instrument. Metallica, c'est un band de guitare. Là. Le drum est pas important. Une maudite chance. Puis la bass est pas importante. Une maudite chance aussi. D'ailleurs, sur l'album Injustice for All, la bass est juste pas là. OK, fait qu'on va y aller avec la toune d'aujourd'hui.
J'ai hâte d'entendre ça.
OK, Rage Against the Machine, version orchestrale. Savourez ça, ça s'écoute très, très bien. Puis on se reparle la semaine prochaine pour le Crash War 96.
Thank you. De la famille H2O Web Media.